La violence de l'étonnement peut révolutionner notre vision du monde et de nous-mêmes en remettant tout en question.
Parce que le véritable problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, notre rapport au monde, notre être à l'espace, fait de l'éradication systématique du vivant une finalité.
La vraie vie, elle est ailleurs. La vraie vie, elle n'est pas dans faire beaucoup de choses, s'agiter, avoir sa Rolex à 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? La vie, elle n'est pas là. C'est ce que nous disent les poètes depuis toujours.
On oublie qu'émerveillement ne signifie pas naïveté.
L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes.
Nous sommes Pierre-Hugo Laplace et nous souhaitons la bienvenue sur notre podcast autoproduit pour Tract et Since Nothing. Au fil des épisodes, nous allons à la rencontre d'artistes, scientifiques, philosophes ou citoyens qui, par leurs travaux ou leurs réflexions, développent des discours alternatifs ou subversifs, c'est-à-dire en rupture avec nos imaginaires sociétaux actuels. Ensemble, nous déconstruisons les évidences qui nous empêchent trop souvent de percevoir l'étrangeté de notre quotidien. Quand bien même qu'il soit joyeux, dangereux, mélancolique ou amoureux, l'émerveillement a mille facettes qui n'attendent qu'à être embrassé. Nous tenons à préciser que nous basons au maximum nos entretiens sur la base de discours validés scientifiquement, rationnels ou basés sur un argumentaire solide au plus proche du réel et des faits, au-delà de nos simples interprétations, afin de valider ou non certaines hypothèses et ainsi nous doter d'une nouvelle grille de lecture fiable de notre environnement. Avez-vous déjà entendu parler du New Age ? En nous appuyant sur la définition que nous donne GeoConfluence, nous pouvons lire que le New Age n'est pas stricto sensu un mouvement religieux, même s'il est parfois englobé dans les nouveaux mouvements religieux. C'est un courant spirituel occidental apparu à la fin des années 60, fondé sur l'espérance en des temps nouveaux, se caractérisant par la diversité, et ce, tant au niveau des pratiques, des référents religieux ou de l'ésotérisme comme l'astrologie ou la numérologie, que des pratiques thérapeutiques. Depuis quelques années, le mouvement New Age fait face à de nombreuses critiques. Par exemple, plusieurs mouvements associés au New Age sont répertoriés comme sectes ou font l'objet d'une mise en garde pour dérives sectaires, notamment en 2014 dans le rapport de la Miviludes. Nous pouvons retrouver également dans le New Age de nombreuses pratiques pseudo-scientifiques comme la lithothérapie, le Reiki, la médecine quantique, l'astrologie ou encore la numérologie. Enfin, le New Age serait le berceau de théories complotistes et une menace pour le lien social. Qu'est-ce qui est réellement le New Age ? Quelles peuvent être les conséquences de ce mouvement sur les perceptions du monde qui nous entoure, voire de notre propre corps ? Comment pouvons-nous éviter de tomber dans les croyances qui l'entourent ? Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Julie Rideau pour tenter de mieux comprendre tout cela. Ex-médium, Julie a passé plusieurs années dans les croyances New Age. Aujourd'hui, elle en est sortie et partage son histoire sur sa chaîne YouTube que vous pourrez découvrir dans les notes de l'épisode. Allez, nous laissons place à notre conversation avec Julie. Salut Julie.
Salut.
Salut. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler d'un sujet qu'on n'avait pas encore abordé sur notre podcast qui est lié au New Age. Est-ce que tu... Pour commencer un peu... ce podcast en douceur, on va dire, est-ce que tu peux nous présenter, en fait, dans un premier temps, ce qu'est le New Age, comment tu peux, toi, le définir, et en gros, qu'est-ce qu'on retrouve un peu comme pratique dans ce qu'on appelle le New Age ?
Ouais, avec plaisir. Alors moi, j'ai un peu de mal à faire synthétique pour expliquer ce qu'est le New Age.
Prends ton temps.
Ok, merci, c'est gentil. Mais en tout cas, pour connaître un petit peu l'histoire du New Age, avoir des définitions plus précises que ce que je vais donner, je recommande vraiment le podcast de Métachoc d'Elisabeth Fetti. Mmh. Là, il y a vraiment un peu tout l'historique. Voilà. Mais pour ma définition à moi, le New Age, c'est une forme de spiritualité moderne, organisée autour de croyances et de pratiques venant de plein de cultures, de philosophies et de religions différentes. C'est un peu un mix entre le christianisme, les philosophies orientales, l'ésotérisme. C'est une spiritualité à la carte. On choisit ce qui nous parle, mais globalement, on retrouve quand même des grands thèmes comme l'astrologie, les tirages de cartes oracle, tarot ou autres outils de divination. On a le pendule aussi, on a la pratique du Reiki, le channeling ou canalisation. On a la loi de l'attraction, le fameux « tout est énergie ». On a les pierres de lithothérapie, la numérologie, certaines formes de méditation, les soins énergétiques. Voilà, je vais pas tout faire, mais voici quelques exemples de ce qu'on retrouve dans le New Age pour resituer un peu le truc. Et alors, je tiens juste à préciser que je dis pas que chaque pratique est forcément reliée au New Age en soi,
oui.
Mais qu'en tout cas, on les retrouve dans ce courant spirituel. Par exemple, moi, je fais du yoga tous les jours. Ma pratique de yoga, elle est détachée d'un mouvement spirituel. Je fais ça juste comme une activité physique qui me détend, qui me fait du bien.
Okay.
Mais on retrouve beaucoup le yoga dans l'univers New Age et il y a de nombreuses dérives autour de ça. Mais tout dépend de, voilà, de comment on le pratique.
Et c'est intéressant parce que justement, enfin, tu parlais de pratiques, peut-être que celle qui parle le plus aux gens, toi, c'est par exemple l'astrologie, parce qu'on le retrouve à la fin du journal. Alors, c'est vrai qu'en fait, c'est aussi relié certains courants, peut-être, ou de façon plus générale, ouais, au New Age, quoi, au final.
Bah, c'est ça. En fait, le New Age, il reprend des trucs qui existaient déjà. Voilà, je vous dis, moi, je ne suis pas une experte du sujet, mais c'est vrai qu'il y a plein de concepts. Il y a aussi la notion de, par exemple, de cinquième dimension. En tout cas, ce qui est important dans le New Age, c'est cette idée qu'il y a un monde invisible avec lequel on peut plus ou moins interagir. Il y a la notion du fait que tout est énergie, que tout est vibration, on entend ça souvent, et que du coup, on peut travailler dans une espèce de monde invisible, on peut travailler dans l'énergie pour pouvoir améliorer notre vie. C'est un peu la version perchée du développement perso, finalement.
D'accord, ouais. Oui, bah, en plus, le développement personnel qui... Enfin, on en écoute de plus en plus parler depuis quelques temps et je trouve que du coup le New Age ces dernières années ça a aussi monté, on va dire, peut-être ça s'est peut-être lié un peu au développement personnel.
Ouais, bah j'ai l'impression qu'en général on commence par des choses un peu plus soft dans le dev perso, puis après une chose en amenant une autre. Bah, on peut se retrouver vers des choses de plus en plus ésotériques. Voilà. En fait, par exemple, la loi de l'attraction, bah, on en entend parler un peu dans les deux mondes. La loi d'attraction, finalement, est-ce que c'est plus du dev perso ou est-ce que c'est plus du new age? Je ne saurais pas dire exactement. La limite est floue, en fait.
Hop, hop, hop. Avant de continuer, sachez que chez Tract, nous ne faisons pas que des podcasts ou des vidéos. Notre souhait est de déconstruire et d'analyser les effets néfastes de notre société actuelle, comme les discriminations, les pressions sociales ou encore la crise environnementale, de déconstruire les évidences qui nous font penser que trop souvent la vie est ainsi faite, tout en réfléchissant et en promouvant de nouvelles façons de concevoir cette dernière à travers un prisme poétique. Pour soutenir notre travail, vous pouvez vous rendre sur move.tract.fr, le lien est en description de cet épisode, afin de découvrir l'ensemble de nos champs d'action entre production médiatique et artistique ou encore organisation de débats et pourquoi pas adhérer à notre association si vous souhaitez rejoindre notre collectif et nous aider à développer nos contenus et nos actions. Merci et bon podcast. Ouais, ben la loi d'attraction, c'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu parler. Enfin, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qui ont véhiculé leur croyance sur la loi de l'attraction. Eux, dans leur discours, ben, tu vois, ils parlent pas de New Age. En fait, je sais même pas si eux le relient vraiment au New Age, mais c'est vrai qu'on retrouve dans le développement personnel des choses comme la loi de l'attraction. Quoi.
C'est ça. Alors que c'est ésotérique. C'est pas du tout rationnel, scientifique. Voilà, c'est juste une proposition plutôt spirituelle, en fait.
Ouais, parce que c'est vrai que pour resituer la loi de l'attraction, en gros, c'est que ses croyances positives vont attirer du positif à sa vie. À l'inverse, si t'as des croyances négatives, ça va attirer des expériences négatives dans ta vie, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est l'idée d'entretenir des pensées, des émotions positives afin de d'attirer à soi des situations positives. Et effectivement, du coup, si on a des pensées, des émotions négatives, on va attirer à soi de manière énergétique, hein, c'est pas juste une question de série de cause à effet, c'est vraiment énergétiquement, du coup, on émet quelque chose de négatif, donc on reçoit du négatif dans sa vie, c'est ça l'idée.
Mais toi, nous on avait vu, je sais pas si tu connais, toi, la sociologue Eva Illouz qui avait écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle Apicratie, qui montrait en gros l'injonction au bonheur qu'il y a dans nos sociétés actuellement. Et elle montrait justement qu'aujourd'hui, des choses comme la loi de l'attraction, en fait, sont utilisées comme croyance
pour faire progresser son business, dans le sens où aujourd'hui on nous dit bah pour réussir il faut être heureux. Être heureux est une condition pour la réussite et du coup attirer à soi des événements positifs soi-disant par la loi d'attraction permet de réussir matériellement, financièrement et tout le etc. quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que pas forcément. En fait, le succès, en tout cas le succès en entreprise, ouais, ça dépend de plein de facteurs socio-économiques. Enfin voilà, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. On peut pas juste dire voilà, soyez heureux et le reste suivra. Ça marche pas comme ça.
Ouais, c'est clair.
Bah, ce serait bien, ça serait facile du coup.
Ouais, et encore, je sais pas, parce que soyez heureux quand même, c'est lourd. Hein. C'est pas toujours facile d'être heureux non plus.
Puis déjà, c'est définir ce qu'est le bonheur et ce qu'est être heureux, quoi, au final. Ce qui est déjà quelque chose qu'on a, j'ai l'impression qu'on n'a jamais réussi trop à définir au cours de l'histoire.
C'est ça, vous avez 4 heures.
pour recentrer un peu sur ton expérience personnelle, est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment tu es entré dans le New Age et nous raconter un peu de façon générale ton histoire avec le New Age?
Ouais, alors pour commencer par le commencement, moi j'étais dans une phase de ma vie, j'étais jeune quand j'ai commencé un peu là-dedans, moi j'étais ado quoi, allez, 16, 17, 18 ans, je commence à me poser pas mal de questions, j'étais assez vulnérable, je cherchais à comprendre mon fonctionnement, je cherchais à me sentir mieux, j'avais besoin de repères aussi, j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie dans un premier temps. Donc jusque-là, tout va bien.
Ok, ouais.
et à la méditation aussi, à l'auto-hypnose, parce que j'avais des problèmes de sommeil. Donc, du coup, j'ai utilisé ça pour m'endormir. Mais rien d'alarmant jusque-là. Sauf que rapidement, je suis arrivée au développement personnel, parce qu'avec ces titres aguicheurs, l'appel à l'émotion, on essaie de... Ouais, toujours dans cette quête de réponse, de sens, de connaissance de soi... j'arrive au dev perso et puis du dev perso New Age, comme je le disais, il n'y a qu'un pas. D'ailleurs, quand on regarde les rayons dans les librairies, on a psychologie, philo et ésotérisme et spiritualité
au
même endroit en fait. Hein.
C'est vrai.
Voire même des fois les bouquins sont mélangés dans tout ce bazar. donc c'est une catastrophe. Et puis on regarde du contenu sur YouTube, par exemple, on passe très vite d'un discours orienté développement personnel. Donc le développement perso, bah pour moi c'est un peu voilà comment être la meilleure version de soi-même, comment progresser, s'améliorer, s'épanouir, comment créer son business, comment être successful, donc réussir sa vie, n'est-ce pas, quelle pression, comment se sentir mieux, comment être heureux, comment voilà, c'est un peu ça. Et puis, petit à petit, on arrive à un discours plus spirituel avec beaucoup de contenus qui sont entre les deux, finalement. Donc, ça a commencé un peu comme ça, quoi, dans une quête. Et puis, au fil des années, comme j'étais passionnée de psychologie, de bien-être, de ces questions-là, finalement, je me suis retrouvée dans cet engrenage. Et en plus, je suis très bonne élève. Donc, si vous voulez, je suis très curieuse, donc je découvre des choses, ok, on fait une expérience, et puis on veut toujours plus, du coup, parce que je veux comprendre, moi, ce qu'on me raconte, donc je lis encore plus de bouquins, je consulte encore plus de podcasts, d'émissions, de machins, pour essayer de comprendre tout ce bazar, et puis, du coup, je me retrouve dans cet univers avec tout un vocabulaire New Age. Donc au début, ça restait assez sain, mais... voilà, j'ai testé assez innocemment certains soins. J'ai consulté une énergéticienne, une coach de l'âme aussi. Vraiment en me disant pourquoi pas. J'avais pas d'avis là-dessus. C'était très innocent. Je me laissais guider. Il y a une personne qui me dit « Ah tiens, tu pourrais essayer ça. Tu vas pas trop bien en ce moment. » Je voyais une psy aussi, mais bon, ça suffisait pas forcément. C'était pas la thérapie adaptée à mes besoins à l'époque non plus. C'était pas ce qui me convenait, donc j'ai cherché des solutions pour me sentir mieux, en fait. J'avais beaucoup de difficultés liées à mon fonctionnement et à un passé assez traumatique. Sauf que comme ça va pas mieux, on continue de chercher, pensant que la prochaine fois ou avec cette nouvelle pseudothérapie, ça ira mieux. On plonge de plus en plus dans un discours qui nous est répété, dans lequel on est responsable de ce qui nous arrive aussi. Mais on peut reprendre le contrôle sur la situation. On nous dit, En fait, si vous travaillez sur vous-même, si vous appliquez tel protocole, si vous purifiez énergétiquement, si vous nettoyez vos chakras, si, eh bien, vous pourrez vous sentir mieux et reprendre le contrôle sur votre vie. Donc, on vous vend des solutions miracles. On nous sert des explications très perché hein, à nos problèmes, en jouant beaucoup sur l'effet Barnum. Mais en même temps, ça fait sens, parce qu'en fait, on nous attrape sur des choses qui nous parlent. Par exemple, on va nous dire, c'est l'effet Barnum, vous êtes sensible, vous êtes très empathique, vous n'aimez pas l'injustice. À vous, vous avez connu des grands moments de souffrance dans votre vie. Bon, bah ok, là, tu te reconnais. Et puis, du coup, on t'attrape. Tu sais, on peut te dire, par exemple, tu t'es senti en décalage dans la société ou avec les autres par moment. Il y a des problématiques qui relèvent des fois de la neuroatypie, par exemple. C'est un truc que j'ai compris après. Et en fait, ça donne du sens parce que, ouais, effectivement, j'ai des problématiques dans ma vie. J'ai du mal à être fonctionnelle, à rentrer dans les cases qu'on m'impose. Et là, on me dit qu'en fait, c'est normal. C'est parce que j'ai une mission de vie, c'est parce que, je sais pas, parce que je suis une enfant indigo, c'est parce que finalement, j'ai une sensibilité particulière, mais qui a du sens spirituellement parlant, on va dire. C'est parce que j'ai une âme qui est venue faire telle et telle chose sur Terre, par exemple. Donc en fait, on nous donne... du sens à ce qu'on ne comprend pas et on donne une explication à ce qui n'en avait pas jusqu'alors. Donc, on se fait un peu attraper comme ça. Enfin, en tout cas, moi. Mais je ne pense pas être la seule. Et du coup, je suis allée à fond dans le truc. Je lisais plein de bouquins, je regardais plein de vidéos, j'écoutais des podcasts, je me suis mise à assister à des ateliers pour travailler dans l'énergie. J'ai fait des constellations familiales, j'ai fait des soins énergétiques. Des auto-soins et des soins par des énergéticiens. J'ai consulté un astrologue, je me suis tiré les cartes, j'ai acheté mes propres oracles, évidemment, jusqu'à finir par proposer moi-même ces services au bout d'un certain temps, pensant que je pouvais aider les autres avec ce qui m'aidait moi, finalement. Avec, pareil, innocemment, on se dit, ouais, ça me fait du bien, ça me plaît, donc pourquoi pas proposer ça ? Puisqu'au bout d'un moment, on croit qu'on a tout compris au bazar. Et en tout cas, c'est comme ça que je voyais les choses à ce moment-là. Et puis en plus de ça, quand on propose ces services-là, en fait, il y a tellement de biais cognitifs. On est tous un petit peu avec les mêmes croyances. Il y a des biais de confirmation. Il y a plein de choses, on pourrait y revenir, mais qui se jouent. Et donc, on est validé dans nos croyances. Et quand on propose ces services... Enfin, en tout cas, moi, quand je proposais ces services, les personnes repartaient satisfaites. Donc, on se dit, c'est juste alors ce que je fais, c'est que ça va. Bon, puisque les personnes me disent qu'elles sont contentes, qu'effectivement, elles en ont retiré du positif. Donc, voilà. Pour la faire courte, ça s'est passé comme ça.
Et est-ce que, du coup, quand tu es rentré comme ça dans le New Age, est-ce qu'il y avait aussi un sentiment... quelque part de faire partie d'un groupe ou c'était vraiment quelque chose qui était très individualisé ou c'était vraiment pour toi quoi.
Alors pour ma part c'était plutôt individuel comme démarche. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent effectivement dans des groupes et qui en sortant du coup du New Age perdent toute une communauté. Moi c'est pas vraiment été mon cas parce que c'était surtout en ligne, puis dans ma quête personnelle, quoi. C'était vraiment une démarche individuelle. J'ai pas trop eu ce truc. C'était quoi la question ?
Non, c'était ça.
Ok.
Mais ce qui était intéressant, ce que tu disais au début aussi, c'est que c'est vrai que quand tu vas en librairie, tu vois un peu tous les bouquins liés à l'ésotérisme qui sont mélangés ou qui sont à côté des bouquins de philo. Et on se rend compte, surtout, toi, on parlait de développement personnel aussi, que c'est des bouquins qui se vendent très bien. Est-ce que ça apporte pas aussi peut-être des solutions plus simples et plus rapides que, par exemple, étudier de la philosophie, quoi?
Bah, c'est pour ça que ça plaît, évidemment, parce que c'est plus accessible, mais c'est pas plus simple, c'est plus simpliste, en fait.
Oui.
Et c'est ça le problème, c'est que dans le dev perso, on a des concepts de psycho, par exemple, mais c'est vulgarisé à l'extrême, et puis bah, c'est pas adapté à un profil. Enfin, en fait, le dev perso, c'est adapté à la personne qui va pas trop mal, quoi, qui a pas trop de problèmes dans sa vie, qui se pose peut-être quelques petites questions de sens, qui a, voilà, un petit coaching, et puis ah bah ouais, c'est vrai que en fait ces derniers temps j'avais un peu une perte de motivation au travail, et puis j'ai fait un petit coaching et ça m'a permis de retrouver un peu le sens de ce que je faisais. Ok, super, voilà. Mais quand on va mal, qu'on est voilà, qu'on a des traumas, qu'on est en dépression, qu'on a un trouble anxieux, qu'on est neuroatypique, que ceci, cela, bon, en fait, ça ne colle pas. Parce que le développement personnel est tout sauf personnel. Il n'est pas du tout personnalisé. Et donc, bah, ça répond pas aux personnes. Et généralement, quand on va dans ces milieux-là, bah, c'est quand même que. Il y a des problématiques qu'on essaye de traiter. Il y a potentiellement une vraie souffrance, un vrai besoin, et ben c'est généralement pas là qu'on trouve ces réponses. Et voire pire, il y a aussi beaucoup de désinformation, beaucoup de solutions qui sont contre-productives. Par exemple, la pensée positive, meilleur exemple de ça. C'est complètement contre-productif de se forcer, de se marteler des choses positives dans la tête. Ben ça marche pas. Ça n'aide pas. Et c'est au contraire, ça favorise. Comment ça s'appelle déjà? Je sais plus le terme psychologique, mais en tout cas, c'est une négation de ses émotions. Et le fait d'étouffer ses émotions et ses pensées négatives, qui ont un sens, bah c'est contre-productif en fait. Ça nous nuit plutôt que de les traiter, d'accepter aussi que, bah, ok, là, je suis un peu triste. Comment je peux accueillir ça? Plutôt que de te dire, ah non, non, faut pas être triste, hein. Faut pas être triste, parce qu'en plus ça attire du négatif, non, non.
Ouais, et puis c'est comme, là tu parlais des émotions négatives, c'est vrai que ces émotions négatives, elles sont utiles, enfin toi ne serait-ce, si on veut parler plus largement au niveau de la société, c'est souvent des émotions négatives qu'ont par exemple apporté certaines révoltes ou certaines, toi changements dans la société même en groupe, donc c'est que rejeter ces émotions négatives, il y a aussi un côté de se dire oui tout est bon tout ça et puis ça étouffe aussi un peu
Ce qui va pas, ouais, ce qui va
voilà
revenir
quoi et
pas,
puis
quoi.
cette capacité nous à pouvoir aussi nous servir des émotions négatives pour faire changer certaines choses quoi.
Exactement. Mais d'ailleurs, dans le New Age, on nie les problématiques sociétales. Le New Age, c'est la spiritualité des gens qui vont bien, en fait. C'est et qui vivent voilà, dans une société où il y a un confort parce que dans le nuage, on entend souvent le tout est juste. Et quand on leur dit, bah ouais, mais celui qui est né dans un pays en guerre, ouais, mais c'est que son âme le voulait, c'est que il l'a choisi pour faire une expérience et pour que son âme apprenne. Ben non, mais c'est horrible de dire ça, en fait. Vas-y, toi. Tu crois que si on te demandait, tiens, ça te dirait d'aller faire une petite expérience là d'une vie en enfer dans un pays en guerre où tu vas voir toute ta famille violée, tuée devant toi, tu vas souffrir de la famine, etc. Ça te dit de faire cette expérience sur Terre? Ah ouais, carrément, je signe. Bah, bien sûr.
Ouais, je vais dans ton sens parce que à côté de ce qu'on fait, moi je travaille dans le service de l'immigration dans l'État français. On reçoit pratiquement tous les jours des personnes qui sont réfugiées de pays comme l'Afghanistan. Je confirme qu'ils n'ont pas choisi de naître dans ce genre de pays. Hein.
Et tu disais tout à l'heure que du coup quand tu proposais toi après tes services, tu avais vraiment cette volonté d'aider les gens. Est-ce que tu penses que dans ce milieu-là, c'est quand même la majorité des personnes, ou est-ce qu'il y a quand même un côté où en fait, t'en as qui savent très bien que ça fonctionne pas, mais qui le font quand même dans le but justement peut-être de gagner de l'argent ou justement de vendre ce qu'ils ont à vendre, quoi.
Bah ça, c'est une grande question. C'est vraiment une grande question. Moi, j'ai tendance à être assez naïve et à toujours laisser le bénéfice du doute aux gens. Maintenant, il y a certaines figures où, quand on remet en question, il y a des grandes figures qui, qui sont débunkés par d'autres. Et en fait, ces personnes continuent à nier, continuent. On voit qu'elles s'enfoncent dans une mauvaise foi où là, on peut pas se dire non, la personne, elle peut pas être honnête. C'est pas possible, quoi. Elle est vraiment de mauvaise foi. Maintenant, c'est difficile à dire, en fait. Est-ce que ces personnes ont un trouble qui font qu'elles sont tellement déconnectées de la réalité et elles sont... c'est tellement dur pour elles, finalement, de remettre en question ces croyances-là que, ben, elles ne voient réellement pas le mal qu'elles font. Après, je pense que ça dépend aussi de l'ampleur du truc. Vous voyez, il y a plein de personnes qui vont faire des soins Reiki, etc. Mais bon, elles font ça dans leur petit village. Et puis, ça peut avoir des conséquences graves, mais elles n'ont pas carrément monté un groupe avec une secte, un truc énorme. Et je pense que ça dépend aussi de ça. Franchement, c'est difficile hein, de savoir. Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a des gens qui font ça très naïvement, innocemment. Et je pense qu'il y en a d'autres qui font ça pour l'argent, ouais, clairement.
Ouais, parce qu'après, on voit quand même qu'il y a un côté, enfin, notamment, tu vois, si on reparle des certains livres qui sont en librairie ou même des vidéos qu'on peut trouver, tu sens qu'au niveau des titres, tu vois, c'est travaillé, quoi. C'est limite, en fait, c'est marketé, quoi. C'est vrai qu'il y a certainement des personnes qui le font de bonne foi en espérant aider, et puis certainement d'autres aussi qui sentent qu'il y a peut-être de l'argent à se faire dessus, quoi.
C'est ça, mais quand même, je me dis qu'au bout d'un moment, on voit quand même qu'il y a des trucs, ça marche pas trop. Enfin, je sais que moi, je doutais souvent de ma pratique, et ça a pas duré longtemps. Et j'en connais d'autres, hein, des personnes qui m'ont raconté un peu leur histoire, qui me disaient, j'ai fait des soins, etc. Puis au bout d'un moment, j'ai remarqué quand même. Enfin, je suis sortie de tout ça et puis j'ai arrêté de pratiquer. Et qui s'en veulent beaucoup d'ailleurs. Mais c'est vrai que je me dis, il y a un moment donné, on ne peut pas rester 15, 20 ans, 30 ans à proposer ses services et jamais remettre en question sa pratique et être complètement de bonne foi et honnête intellectuellement. Je sais pas, ça me paraît quand même assez gros, mais... Je ne sais pas.
Bah après, tu vois, je trouve qu'il y a des choses comme ça qui se vérifient dans d'autres professions où il y a des faits scientifiques qui montrent que certaines pratiques, on peut penser à des choses comme la surpêche ou des choses comme ça, où ils montrent que c'est néfaste. Pourtant, les grands groupes continuent donc, parce qu'il y a la pétence de l'argent. Donc peut-être que dans le milieu New Age, il y a ce même phénomène qui peut se reproduire.
Ah bah, en tout cas, c'est sûr qu'il y en a. On ne peut pas dire qu'ils sont tous honnêtes, ça, c'est pas possible. Mais, mais après, je pense aussi qu'il y a des gens qui sont honnêtes, mais qui sont pris dans un engrenage.
Ah oui, tout à fait, oui. Voilà. Tout à fait,
c'est ça que je voulais dire. Mais effectivement, mais il y a aussi des gros charlatans qui n'ont aucune empathie, aucune conscience. Ils s'en foutent, quoi. Bien sûr.
On avait une autre question où... Là, on parlait beaucoup, enfin, quand tu parlais de ton histoire, que tu cherchais en gros à aller mieux, donc on va dire que tu parlais de bien-être, mais on se rend compte que finalement, ces pratiques peuvent être source d'anxiété. On parlait notamment de la loi de l'attraction, où il y a toutes ces croyances, où on responsabilise l'individu sur sa situation. Donc au final, quelque chose où on y va pour aller mieux, peut au final nous faire porter ou nous faire ressurgir de l'anxiété qui n'était pas prévue à la base, quoi.
Oui, exactement. Bah, en fait, ce qui est marrant avec les croyances spirituelles, c'est que c'est à la fois un moyen de gérer son anxiété, en fait, de se rassurer parce qu'on a une illusion de contrôle et on a des croyances, bah, par exemple, la croyance en la vie après la mort, de manière générale. C'est rassurant, hein, forcément, ça donne un certain sens à la vie. Moi, je sais que ça, le New Age donnait du sens à beaucoup de choses dans ma vie. Ça donnait du sens à la mort, à mon existence. Maintenant, j'ai trouvé d'autres manières de donner du sens à ça, mais ça avait un côté très rassurant et apaisant. Donc, d'un côté, ça peut apaiser, et d'un autre côté, c'est source d'anxiété parce que Bah effectivement, quand il faut penser positif, vibrer haut, comme on dit, donc ça veut dire ne pas rester dans des pensées et des émotions négatives, sinon on va attirer à soi des événements négatifs. Bah effectivement, c'est anxiogène. On a assez peu de contrôle sur nos pensées et nos émotions, en fait. Et quand on est dans une situation délicate ou qu'on est en dépression, par exemple, bah, qu'est-ce qu'on fait de cette proposition sinon s'angoisser et culpabiliser? Donc, effectivement, et qui plus est, des fois, il y a des pratiques qui, en elles-mêmes, peuvent faire ressurgir des traumas, des traumas, je ne vais pas d'autres mots, des émotions fortes, voilà, c'est ça que je voulais dire en tout cas, et qui ne seront pas forcément prises en charge correctement. Moi, ça a été mon cas, où en fait, quand j'allais voir une énergéticienne, je parle un petit peu de ma vie, je rentre dans un état assez vulnérable, on explore certaines choses de mon vécu, sauf qu'elle n'est pas psychologue, elle n'est pas psychiatre non plus, elle n'est pas formée à ça. Et en fait, elle me fait ressortir des émotions fortes, sauf que moi, après, je suis en dissociation, en fait. Et derrière, je repars, je suis comme défoncée, en fait, comme si j'avais pris une substance. Je suis complètement à côté de mes pompes, je suis confuse, j'ai la tête qui tourne, je me sens extrêmement fatiguée pendant plusieurs jours. Et elle me dit « Ah ouais, mais c'est normal, c'est que le soin travaille, en fait. » Bah pas forcément, en fait, c'est peut-être juste parce que ça m'a complètement vidé de mon énergie de faire face à de telles émotions intenses et à de tels souvenirs difficiles, par exemple. Et voilà, et une personne qui, serait psychotique ou qui va se mettre à décompenser, comment elle le gère, ça? Donc voilà, effectivement, c'est pas...
Ouais, et puis il y a ce poids de, justement, comme tu disais, où on dit aux personnes, en gros, vous êtes responsable de votre vie, et puis vous pouvez reprendre le contrôle, en gros, et puis pour les personnes sur lesquelles, il n'y aurait pas d'effet, ça fonctionne pas, ça peut être encore plus compliqué à vivre, quoi, de se dire je suis même pas capable de je peux agir sur ma vie, sur ma façon d'être, et finalement ça marche pas, donc j'en suis incapable, quoi.
C'est ça, c'est extrêmement culpabilisant, frustrant, ça nous met dans l'échec, parce que dans le New Age, si t'obtiens pas de résultat, c'est que t'as pas correctement appliqué le protocole proposé, ou c'est que tu as une énergie trop basse, ou que tu es trop dans l'attente du résultat, ou que tu as encore trop d'ego, ou trop de choses à nettoyer, comme ils disent. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, en fait, concrètement. Mais c'est toujours ta faute, en tout cas.
Tu as subi ce genre de message où on t'a fait comprendre que c'était de ta faute si des choses n'avaient pas d'effet, quoi?
Oh bah oui, totalement. Déjà, c'est vraiment très imprégné dans le discours. C'est-à-dire que moi, j'écoutais beaucoup de contenu, plein de personnes différentes sur YouTube ou des podcasts, voilà. Même dans les bouquins, en fait, c'est toujours cette idée qui revient en permanence, qui te dit que travaille sur toi, comprends ce que tu as à comprendre, et ensuite, ça ira mieux. Ta situation va changer. Mmh. Et c'est toujours... ça revient... toujours sur toi, tes actes, ta responsabilité.
Toi, quelles ont été les conséquences de ces croyances et pratiques New Age dans ta vie? Quand on prépare l'épisode, tu nous parlais d'hyper-responsabilisation, de déresponsabilisation, éloignement des vraies pistes de solutions, tu en as un petit peu parlé. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as toujours, on va dire, entre guillemets, des séquelles de cette période-là?
Aujourd'hui, j'y arriverai un petit peu après. Mais en tout cas, dans les conséquences que j'ai envie de partager, déjà, c'est effectivement une grande perte de temps dans ma prise en charge adaptée à mes besoins. Parce que j'avais des difficultés qui relevaient de la santé mentale et physique. Et non pas de besoins spirituels. C'est autre chose, ça. Donc, ça m'a vraiment fait perdre du temps parce que tout est confus, Et en fait, on cherche des réponses et des solutions à quelque chose qui relève de la santé mentale et physique dans des pratiques qui n'ont rien à voir avec ça. Mais qui prétendent quand même ou qui sous-entendent que ça va nous permettre de nous soigner. Donc, c'est très problématique. Ensuite, une deuxième conséquence, c'est une certaine perte de contact avec la réalité. Pas complètement, hein, je ne parle pas de psychose, mais j'étais quand même très perché. J'ai pris des décisions risquées en me basant sur mon intuition, sur mes émotions. Et ça aurait pu très mal tourner, en fait. Et je me retrouve d'ailleurs pas dans la meilleure des situations actuellement. Matériellement, financièrement, etc. Ensuite, une autre conséquence, c'est beaucoup de charge mentale au quotidien. Alors, à l'époque, plus maintenant, mais dans cet univers-là, en fait, ça me rajoutait une charge mentale. Je l'ai remarqué parce que quand j'en suis sortie, alors ça a été très douloureux, ça a été vraiment un deuil à faire et j'ai fait une dépression après.
D'accord.
J'y reviendrai, mais en tout cas, malgré ça, je me suis sentie libérée par contre. Libérée d'une charge mentale, parce qu'en fait, ça prend toute la place, c'est un peu comme une addiction, si vous voulez. On organise son quotidien autour de ses croyances et de ses pratiques spirituelles. Alors, tout le monde ne va pas être extrême comme ça. On peut très bien mettre un petit orteil dans l'eau de la piscine du New Age et ne pas y aller à fond comme moi, hein, aussi. Il y a aussi ça à remettre en perspective, c'est que faut regarder un peu, pour ceux qui sont rentrés à fond dans le truc, son rapport extrême aux choses. C'est pas juste le New Age en soi. Mais, en tout cas, dans mon rapport au New Age, j'avais une charge mentale parce que c'était tout le temps... comment dire, tout était ramené au New Age en permanence. Donc, je vois une plume par terre, et c'est un signe des guides. Je dois me tirer les cartes pour prendre telle décision, pour me rassurer. Et puis, s'il se passe ci ou ça dans ma vie actuellement, c'est parce que Mercure rétrograde, c'est parce que la Lune est dans tel signe et que du coup, ça met le bazar énergétiquement. Ou alors, c'est parce qu'il y a un portail énergétique. Ou alors, c'est parce que mes guides, ils me proposent une leçon de vie en ce moment. Je dois travailler sur mon ego et donc, c'est pour ça que j'en chie, en gros. Désolée pour le vocabulaire. Je suis assez brute de décoffrage. Hein. Y a tout le temps ce blablatage mental en permanence. On parlait d'anxiété tout à l'heure. Y a aussi une certaine anxiété qui s'est libérée quand je suis sortie du New Age, dans le sens où moi, j'avais tout le temps l'impression de percevoir des présences autour de moi. Donc des défunts, des guides, des êtres du monde invisible en tout cas, qui pouvaient être bienveillants ou malveillants. Et quoi qu'il en soit, ça me faisait flipper à certains moments. Des fois ça me rassurait, des fois ça me faisait flipper. Et donc j'ai quitté aussi cette peur, c'est-à-dire que maintenant je me balade à 2h du mat, je me lève pour aller faire pipi dans la nuit, j'ai pas peur en fait de croiser une entité ou de ressentir un truc bizarre ou non, j'en ai rien à cirer, maintenant c'est sorti de ma tête. Et ça pour moi c'est chouette, c'est une libération, je me sens beaucoup plus légère en fait, c'est comme si la vie était beaucoup plus simple que toutes ces constructions mentales. Alors ce qui est très drôle et paradoxal, c'est que dans le New Age, on nous dit sortez du mental, vous êtes trop dans le mental, il faut écouter son cœur, son intuition, ses émotions en fait. Ce qui n'est pas toujours un très bon conseil, n'est-ce pas? Parce que la rationalité et le cerveau, c'est bien aussi en fait. Réfléchir, c'est bien aussi. Je veux dire, pour construire un avion, si on se base que sur l'intuition, on va tous crever. À un moment donné, faut être assez lucide sur ça. Mais tout ça pour dire qu'on nous dit de sortir de notre mental et en fait, on est tout le temps dedans, puisqu'on est tout le temps en train de se regarder le nombril, on est tout le temps en train d'analyser, de suranalyser ce qu'on vit plutôt que de le vivre, et avec des interprétations de la spiritualité New Age.
Parce que toi, en plus, t'étais resté à peu près combien de temps, du coup, dans tout ça?
J'avais réfléchi à un moment, j'avais dit autour de 5-6 ans, c'est difficile d'évaluer.
Mais c'est vrai que ça laisse comme du temps pour
effectivement, ouais, de tout réfléchir à ça, enfin tout développer, ouais, c'est
Ah ouais,
assez
puis
long
moi
quand même, non,
je suis assez. Puis moi je suis à fond les ballons. Hein. Enfin, c'est-à-dire que quand j'ai un sujet qui m'intéresse, j'y vais à fond. Donc j'étais vraiment. J'ai consommé beaucoup de contenu sur le sujet, j'ai pratiqué beaucoup de choses, quoi.
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est vrai que des fois on écoute des gens qui disent oui, enfin, tant que ça fait du bien, c'est pas si grave que ça et tout, mais on se rend compte que, comment tu le racontes, c'est que toutes ces pratiques-là donnent aussi aux personnes une mauvaise perspective du monde qui les entoure, voire de leur propre corps, et ça, en fait, c'est assez dangereux, quoi.
Mais qu'est-ce que tu entends par une mauvaise perception de son corps?
Par exemple, tu parlais de troubles, enfin de solutions médicales ou psy, ou t'as mal été orienté. Enfin, tu peux par exemple te dire, ouais, mon corps est comme ça, je ressens ça, et parce qu'on me dit dans ces pratiques New Age que mon corps est composé de tel ou tel truc et de machin, et qu'en final, en fait, c'est pas du tout ça, quoi. C'est comme c'est basé sur des pratiques pseudo-scientifiques, sur des fausses. Toi, tu parlais vraiment des énergies. Dans la médecine traditionnelle, ça n'existe pas, tu vois, ce genre de choses, quoi.
Non, c'est clair. Oui, en fait, ça amène aussi à interpréter certains symptômes physiques comme étant de l'ordre du spirituel, alors que, bah non, si t'as mal quelque part, va chez ton médecin, en fait, va pas consulter un tirage de cartes sur YouTube, voilà. Mais j'ai un exemple qui va parler à beaucoup de gens, c'est la fatigue. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de la gestion de la fatigue. Certains plus que d'autres, on est tous fatigués, hein, évidemment, on bosse, on a un quotidien à gérer, on est tous fatigués, mais il y en a quand même qui sont plus fatigués que d'autres, qui ont du mal à fonctionner avec. On parle souvent des burn-out, hein, aussi dans le dev perso, et spiritualité. Bon, bah en fait, on va te dire, si t'es fatigué, c'est parce qu'en fait, ton âme te dit que tu n'es pas à ta place là où tu es, par exemple. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'avais arrêté mes études de psycho. En me racontant l'histoire, j'étais quasiment en burn-out. Et je me suis raconté l'histoire que, bah ouais, mais en fait, mon âme me dit que c'est pas le bon chemin pour moi, que je dois aller vers autre chose, et que c'est pour ça que je me sens pas bien. Et que je suis épuisée, parce que là, c'était plus de l'épuisement, c'était pas de la fatigue, et que je me sens pas bien psychologiquement, physiquement. Sauf que non, en fait, c'était pas ça. Alors j'ai une explication aujourd'hui, mais j'ai pas forcément envie d'en parler parce que je suis en cours de voilà dans des démarches diagnostiques, etc. Donc voilà, je vais pas dire des bêtises, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était pas mon âme, quoi. J'avais un vrai problème derrière cet épuisement. Et je vois encore aujourd'hui ou hier, je sais plus, je suis tombée sur une vidéo qui expliquait dans un sens un peu spirituel, dev perso, bah pourquoi t'es fatigué? Bah mais non en fait, dans ce cas-là, témoigne de toi ce que t'as compris sur ta vie, ton vécu et de pourquoi toi tu es fatigué, ça c'est intéressant et ça parlera peut-être à certaines personnes, mais c'est pas une généralité. Et puis les interprétations spirituelles, bah ça n'apporte rien en fait. En tout cas, si tu veux les garder, garde-les, mais va faire ton check-up auprès de ton médecin généraliste, quoi. Tu vois.
Ouais, parce que là, typiquement, ouais, c'est ce que je disais, là, ça donnait une mauvaise lecture de ton épuisement, quoi.
Voilà, c'est ça. Tu vois, t'as des maux de tête. Ah ouais, mais c'est parce que ça travaille dans l'énergie. Bah non, non. C'est peut-être parce que t'es déshydraté ou c'est peut-être parce qu'il y a autre chose.
Ouais, et puis du coup, ça, voilà, et puis ça, comme tu disais pour toi, ton histoire personnelle, c'est que ça retarde la vraie prise en charge pour régler
Ouais,
quand
moi
tu t'en
j'ai
termes.
perdu des années.
Ouais, c'est ça qui est au final dangereux, parce que si tu parles dans le cadre d'une dépression, si tu la laisses des années à se développer et que tu la prends pas en charge réellement par des professionnels, là ça peut devenir très problématique, quoi.
Exactement. Et il y a plein de personnes qui sont en dépression, qui tombent dans le New Age, qui sont bah, déjà parce qu'elles sont très vulnérables et que bah elles sont dans une phase de désespoir, en fait, elles cherchent un petit peu de sens dans tout ça, un petit peu de réconfort, Donc c'est tout à fait normal en fait. Alors pour le coup, c'était pas tant une dépression sous-jacente, enfin j'ai pas l'impression. En fait, moi j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie, de plusieurs ordres, on va dire. À la fois, on va dire, avec mon fonctionnement de base, fonctionnement de mon cerveau, mes besoins particuliers, et aussi de par mon vécu, mon passé, avec pas mal de traumas quand même, de choses difficiles, voilà. Et en fait, si je me suis retrouvée en dépression, j'ai l'impression que c'est parce que, alors à la fois, il y a eu un tout, il y a eu pas mal de choses difficiles qui se sont accumulées, et puis voilà. Mais en plus de ça, cette fois, j'avais plus le New Age auquel me raccrocher, justement. Parce que c'était quand même une béquille émotionnelle à laquelle, sur laquelle m'appuyer. Quand tout allait mal, bah, en fait, je pouvais quand même me dire « Ouais, mais mes guides veillent sur moi. » Et puis après tout, mon âme est en train d'être challengée. Mais je vais apprendre et puis ça va aller mieux.
Mmh.
Et ça a du sens ce que je suis en train de vivre. Donc ça, c'était vraiment un truc auquel me raccrocher. Et puis bah là, j'avais plus rien. Parce que une fois le New Age viré de ma vie, je me suis dit, ah ouais, bah en fait, juste j'en chie et il n'y a pas de sens, quoi. C'est juste la vie est dure, voilà, point final. Et du coup, bah, c'était pas très positif comme conclusion et j'avais un peu de mal. Je me sentais face à un immense néant et un immense vide. Et je savais pas comment gérer ça et à quoi me raccrocher. Bon, maintenant ça va beaucoup mieux, mais c'est essentiellement ça, quoi.
On avait aussi un autre pan, on va dire, qu'on voulait aborder avec toi. Quand on a préparé cet épisode-là, on s'est un peu intéressé à ce qu'il y avait dans le nuage de façon générale, et il y a certaines pratiques qui nous ont un peu interpellés, comme tous les discours liés avec ce qu'on appelle le féminin sacré. Alors, il y a Camille Tess qui expliquait, en analysant certains contenus, qui parlait de ça, que c'était sous couvert de valoriser les femmes, ce contenu essentialise les femmes, les réduit à leur rôle reproducteur. Et on a par exemple dans ces contenus-là l'idée que les femmes devraient vivre une existence douce et calme, donc ça joue beaucoup sur des stéréotypes de ce que devrait être une femme, afin d'être attrayante pour les hommes, donc en plus c'est très hétérocentré comme discours. Il y a des idées contre l'avortement et on trouve même l'existence de ce qu'on appelle les granolas nazis, qui explique tout en préparant par exemple une tarte ou en jardinant pourquoi elles sont des garantes de la race blanche qu'il faudrait protéger, etc. Est-ce que derrière justement cette image de bien-être qu'il y a avec le New Age, ces pratiques-là participent pas en réalité à véhiculer des idées qui sont très conservatrices ?
Totalement, totalement. L'horreur, ce que tu décris là, au secours. Alors effectivement, je m'en étais pas du tout rendu compte quand j'étais dans le New Age, mais c'est vraiment en discutant avec des gens après coup que je me suis rendu compte aussi des aspects politiques au sein du New Age et des idées conservatrices aussi comme ça, effectivement. Globalement, on est quand même dans une spiritualité moderne, capitaliste, centrée sur soi, sur son éveil, sur son développement personnel avant toute chose. On retrouve l'idée qu'il ne faudrait pas avoir trop de rapports sexuels, par exemple, parce qu'on perdrait son énergie vitale. Quand on est une femme, on pollue son chakra sacré en ayant des rapports, par exemple. J'ai entendu des choses comme ça, vous voyez.
Ok.
On retrouve, donc c'est très conservateur. Par exemple, c'est, voilà, il faut se préserver, il faut pas, voilà. On retrouve aussi, effectivement, des stéréotypes avec les notions du yin, du yang, du féminin, du masculin sacré, donc qui regroupent les stéréotypes sur ce qui est censé être féminin ou masculin. À ce propos, ça me fait penser aux flammes jumelles. J'avais fait une vidéo sur le sujet et j'avais parlé de ça justement parce que c'est tellement cliché en fait. Voilà, on a le pôle féminin qui est la douceur, la passivité en fait, le côté maternel, un peu toutes ces choses. Et puis on a la beauté, la créativité, choses comme ça. Et le masculin, c'est la force, c'est le passage à l'action, la prise d'initiative, des choses comme ça. La protection. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup ces idées-là qui sont pas vraiment dans l'ère du féminisme. Et de... voilà. C'est quand même, c'est un peu démodé, tout ça. Il serait temps. Donc, il y a aussi, j'avais remarqué une volonté de retourner à ce qui est naturel, entre grosses guillemets.
Ouais. Ouais.
Donc ça, c'est un côté un peu traditionnel, relié à la nature, une petite régression de ce côté-là, ce qui n'est pas forcément mauvais en soi, dans le sens où tout dépend comment c'est amené. Hein. Ça peut être bien aussi de voilà, se connecter à la nature, c'est cool, mais voilà. Après, je ne suis pas experte du sujet, mais c'est vrai qu'on fait face à des discours qui, subtilement, peuvent quand même amener aussi à des terrains politiques. Il y a aussi beaucoup de complotisme dans le New Age. Donc c'est très déconnecté des réalités. Alors pour ça, il y a une super représentation de ces problèmes-là dans la série avec Blanche Gardin, la meilleure version de moi-même.
Ouais.
Génial ça. On voit vraiment le genre de dérive qu'on trouve dans ce courant.
Mais c'est vrai que quelque part, on peut se dire que voilà, il y a une forme de, enfin dans tout ce courant-là, il y a des croyances qui sont apportées. Donc c'est qu'une fois qu'on est dedans, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent dire, bah en fait, je peux en profiter pour aussi apporter d'autres croyances et puis aller un peu plus loin dans le truc. Donc c'est que ça peut être dangereux, surtout quand sur certaines personnes, voilà, qui sont un peu dans tout ça, arrivent justement plus trop à dissocier ce qui est un peu du vrai et du faux, c'est qu'on peut un peu faire croire un peu tout ce qu'on veut aussi derrière, quoi.
Ouais, totalement. Totalement. Bah, en fait, tout est remis en question et on ne sait plus faire la différence entre ce qui relève de la croyance et ce qui relève de la connaissance. C'est ça le problème. Et on remet en question tout dans une espèce de relativisme extrême. Et finalement, bah, les sciences, ça n'a pas plus de crédit que... ce que raconte une fille avec son tirage de cartes, quoi. C'est vraiment un relativisme extrême, quoi. Tout discours est ok si tu le sens, si ça te parle. On retrouve beaucoup ces expressions. Bah, c'est que ça va, c'est que c'est aligné, c'est que voilà, c'est que ça a du sens. Bah non, en fait non. il y a aussi des fausses informations. Il y a des discours qui sont dangereux, qui n'ont pas de valeur. Scientifiques ou ouais, qui sont contre-productifs, qui font régresser. Non, tout discours n'est pas bon à prendre à partir du moment où ça te parle.
Et toi, comment t'es sorti du New Age au final? Parce qu'on a compris que t'étais rentré, ça s'était fait de façon progressive. J'imagine que ta sortie du nuage, c'était un peu le même processus. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été peut-être étape par étape.
Exactement. Moi, je dirais que ça m'a pris une petite année pour complètement sortir du nuage. Comment je suis sortie? Ben, déjà, il y a eu plusieurs incohérences qui m'ont mise en dissonance cognitive. Donc, moi, je suivais à ce moment-là des ateliers d'une gourou avec laquelle on était censé travailler dans l'énergie, n'est-ce pas, pour améliorer notre vie. Et en fait, elle avait une attitude qui n'était pas cohérente avec ce qu'elle prenait, où à des moments, elle m'a rembarrée, je ne me suis pas sentie prise en compte, écoutée à certains moments, et j'ai trouvé ça étonnant. J'avais okay. vraiment l'impression que c'était elle qui avait toujours raison et que elle avait toujours le dernier mot et que on était censé pouvoir intervenir et écouter notre intuition. Et en fait, son intuition avait quand même plus de valeur que la nôtre. Donc, je trouvais ça un peu bizarre. Ensuite, il y a eu aussi une expérience où, alors c'est très bête, mais en fait, ma mère a toujours eu des problèmes d'argent parce qu'elle ne sait pas gérer son argent déjà et parce que, problème d'argent, quoi, dans la famille.
Okay. Enfin,
on va la faire courte. Et en fait, ma mère, j'en parle, quoi, dans un atelier et je dis, ouais, on pourrait pas faire un truc pour rétablir l'abondance, quoi, dans la vie de ma mère parce que c'est embêtant pour elle. Et il y a toujours quelque chose, quoi. À peine elle sort de la tête de l'eau un petit peu, puis hop, il y a la voiture qui tombe en panne, il y a toujours un truc. Et, Et du coup, elle me dit, OK, on va faire ça. Donc, elle me fait faire une visualisation, machin, un exercice. On rétablit l'abondance chez ma mère, n'est-ce pas ? Elle me fait visualiser des canaux d'énergie qui circulent, bref, des trucs, voilà. Et elle me dit, c'est bon, c'est fait. Convaincue comme ça. C'est bon, c'est fait. Et donc, je dis, ah, OK, super. Et puis, bah, en fait, très vite, je vois que rien n'a changé et que ma mère est toujours en galère et qu'il y a toujours des problèmes. Et donc, ça m'a un peu plus mis la puce à l'oreille parce que je me suis dit, ben, déjà, elle avait l'air vraiment convaincue que c'est bon, c'est fait, tu vois. Mmh. Et en plus, c'était pour quelqu'un d'autre que pour moi-même. Parce que pour moi, j'arrivais encore à m'arnaquer et à trouver une raison. Mais là, c'était pour quelqu'un qui était extérieur à tout ça. Et du coup, ça m'a... Je me suis dit, ouais, ça a quand même pas marché, quoi. Bon, c'est bon, pas terrible. Mais il y a eu également autre chose, c'est que à un moment donné, moi, j'avais commencé les contacts défunts à ce moment-là.
Okay.
Voilà, donc je parlais avec les morts, n'est-ce pas ? Et puis j'avais proposé ça à des gens gratuitement au début. Et puis bah ça marchait et c'était vraiment un beau moment d'amour. Il y avait beaucoup d'émotions et c'était très beau ce qui se passait. Et du coup j'en ai parlé à cette gourou qui m'a dit mais non, mais toi c'est pas ça qui t'est demandé. T'es censée être coach. Ça vibre bas tout ça, c'est le bas astral, c'est pas bien de parler avec les morts comme ça, nanana. Et du coup, bah en fait, cette conversation, elle m'a rendue triste. Et puis en plus, elle était assez agressive. Avec moi, ça marche pas, quoi. Je suis très sensible et j'aime pas qu'on me parle sur ce ton. Et en plus de ça, je me disais, bah, je fais quand même ce que je veux de ma vie, quoi. Enfin, j'ai trouvé qu'elle était trop... autoritaire dans son attitude et ça m'a blessée et à partir de là je me suis dit, bon je vais prendre un peu de recul par rapport à ces ateliers parce que là ça fait quand même plusieurs éléments où je me sens pas à l'aise donc j'y suis plus allée en tout cas la semaine d'après je suis plus allée et puis voilà j'ai arrêté j'ai fait une pause et puis j'ai commencé à réfléchir un peu à ce qui se passait. Elle avait un podcast aussi, un podcast qui s'appelle Intuition, je sais pas s'il existe encore. Et donc, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, bon, en fait, ça me convient pas. En plus, elle avait une vision encore plus perchée des flammes jumelles que la version première qui est quand même déjà bien perchée. Où il y avait des aliens, il y avait une flamme jumelle qui était bleue et une rouge. Enfin, bref, c'était un bazar pas possible. Et puis moi, j'étais pas trop flamme jumelle, quoi. Enfin, bon, il y avait quand même pas mal de choses qui me convenaient pas. Donc, j'ai remis en question ça et puis je suis tombée sur les vidéos d'Anna qui est sur YouTube et qui a aussi un podcast qui s'appelle Coup de Grâce avec un compte Instagram très riche en infos sur les mécanismes de l'emprise psychologique, des techniques de manipulation des gourous, etc. Vraiment, je recommande à 100%. Très, très intéressant. Et donc, elle avait fait une vidéo sur Aurore Rogier ou Roger, je sais pas comment on dit, qui est une femme qui fait des vidéos sur YouTube notamment et qui est très très connue, hein, elle a plus de 200 000 abonnés.
Ok, ouais.
Et en fait, bon, elle est médium, canal, parce que je sais plus trop, mais en tout cas, elle est médium, ça c'est sûr. Et elle canalise les guides et les entités qui passent à travers elle pour exprimer leur message. Et je l'écoutais. Et en fait, Anna avait fait une vidéo pour, avec beaucoup d'humour et de sarcasme, débunker en fait son discours. Et moi, ça m'avait fait beaucoup rire. Et j'étais toute seule devant mon ordi et je me suis sentie con. Hein. Je me suis dit, ah, mais c'est vrai, en fait, c'est nimp. J'ai réalisé quoi que ce que j'écoutais, bah, c'était nimp. Donc ça m'a fait prendre un peu plus de recul et puis voilà, une chose en amenant une autre. Puis après, du coup, j'ai fait un peu de recherche, puis j'ai découvert Méta de Choc, Elisabeth Fetti, un grand merci. Et puis c'est surtout les témoignages, moi, qui m'ont permis de comprendre ce que je vivais et puis de pas culpabiliser, de me dire, OK, bah, je suis pas la seule à être tombée dans le panneau, ça arrive, ça veut pas dire que je suis bête ou que je suis nulle, c'est juste, ça arrive à plein de gens bien. Et c'est pas grave. Et en fait, je me suis renseignée un peu sur tous les mécanismes qui font qu'on en arrive à croire à des choses absurdes comme ça. Donc, petit à petit, j'ai tout déconstruit, j'ai vendu ou donné ou débarrassé en tout cas de mes tarots oracles. Je ne consommais plus ce contenu. J'ai tout viré parce que en fait je voyais quand j'écoutais par curiosité je réécoutais de temps en temps un tirage de cartes et je voyais que de l'effet Barnum quoi. Je me disais bah ouais, en fait soit ça me parle pas soit c'est de l'effet Barnum quoi. Donc je ne pouvais plus croire maintenant que c'était débunké. Et ensuite, j'avais quand même gardé les croyances en la médiumnité, la vie après la mort. Ça, c'était les croyances qui ont été les plus difficiles à débunker pour moi.
Okay.
Sûrement parce que j'étais très attachée à ça aussi. Et puis parce que ça faisait encore sens d'un point de vue rationnel, en fait. Parce que les contenus sur lesquels je me basais pour dire que ça existe et que c'est réel, la médiumnité et tout, ils étaient à mes yeux sérieux, mais en fait non. Il y avait plein de biais. Ça n'avait pas du tout. J'écoutais Jean-Jacques Charbonnier, j'écoutais Stéphane Alix, j'écoutais tout ce qui est de l'ordre des EMI. J'ai lu Raymond Moody, etc. C'est quand même des grands personnages quoi, qui n'ont pas l'air de raconter n'importe quoi. Mais en fait, non. C'est faux, on n'a pas de preuves, on n'a pas de preuves. On peut croire si on a envie, mais il n'y a pas de preuves. Et donc moi, le problème, c'est que j'aime pas croire, quoi. J'aime bien savoir, ou alors je dis je sais pas, mais j'aime pas rester dans une croyance comme ça. Et du coup, alors j'avais fait une vidéo sur ma chaîne pour dire à un moment donné, en fait, vous savez, la médiumnité, c'est pas New Age. C'est autre chose, c'est à part. Et je vais vous donner les arguments pour. Donc, j'ai parlé de ces personnages que je viens d'évoquer, de ces personnes. Et puis, il y a une personne qui m'a écrit en commentaire avec énormément de bienveillance, une communication bienveillante, n'est-ce pas ? Et une très grande réflexion qui a remis en question mes propos. Et je me suis dit, ah bah ouais, c'est vrai, en fait, c'est intelligent ce qu'elle raconte. Donc, du coup, j'ai cherché à creuser, on a commencé à s'échanger des mails, je dois beaucoup à cette personne. Parce que m'a fait prendre conscience que, bah non, ça non plus. C'est de la croyance, quoi, c'est pas du savoir. Et donc, là, j'ai pu déconstruire à nouveau ces croyances-là. Et puis là, j'ai vraiment fait face au vide, quoi. Là, vraiment, j'avais plus rien. C'était vraiment, je ne crois plus en rien. Je suis devenue matérialiste. Je sais que ça en déçoit beaucoup. Il y en a beaucoup qui m'envoient des mails pour me dire mais quand même, est-ce que tu te raccrocherais pas à autre chose, à la foi chrétienne, bouddhisme et tout. Et je leur dis c'est gentil et je suis heureuse que vous vous retrouviez là-dedans. Vraiment, c'est pas pour me moquer, c'est pas de la condescendance. Vraiment, juste moi ça me parle pas. Moi j'ai besoin de connaissances. Et si c'est pour croire en un truc, bah ça me va pas. Même si évidemment je suis comme tout le monde, j'en ai des croyances sur la vie, mais sur moi-même par exemple. Mais voilà, j'ai plus de croyances spirituelles.
Et t'en parlais un peu pendant l'épisode, t'avais un peu cette notion d'avoir perdu du temps, mais t'as vraiment cette notion du coup d'avoir vraiment perdu du temps dans ta vie ou au final bon bah ça fait partie de ta vie puis. Et puis voilà quoi, est-ce que t'as vraiment ce sentiment de dire bah ouais en fait là j'ai vraiment gâché de par exemple 5-6 ans de ma vie quoi?
Non, j'ai pas l'impression d'avoir gâché du temps de vie. Je pense que j'ai avancé juste un peu plus lentement que les autres, que bah des fois j'ai pris des décisions qui étaient pas idéales. Ça a eu quand même des conséquences aussi sur certaines relations. Mais en soi, j'ai fait une expérience, je suis assez optimiste comme personne, et je me dis, bon, bah, j'ai appris plein de choses, c'est pas très grave. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont cette sensation-là, je le vois beaucoup avec les personnes avec qui je communique à ce sujet, j'ai ouvert un Discord, Enfin, c'est pas pour faire ma pub, mais tant qu'on y est, j'ai ouvert un Discord en fait qui s'appelle Shipland en référence aux moutons, parce que dans le New Age, les personnes qui sont en dehors de ces croyances-là sont des moutons. Hein, en fait, c'est des gens qui sont dans la matrice finalement et qui ne s'élèvent pas spirituellement. Et donc, j'ai ouvert un Discord pour permettre aux personnes qui ont besoin d'échanger sur ces croyances, sur leur vécu post-New Age, comme j'ai pu le faire, d'avoir un espace safe où le faire. Parce que des fois, on se sent quand même très seul, quoi. On ne sait pas trop à qui parler de ça. Et donc, moi, je recevais beaucoup de personnes au téléphone, par mail, etc. Et j'échangeais. Et puis, je me suis rendu compte que ce serait sympa de faire un groupe. Donc du coup, il y a cet espace-là. Et donc, sur le Discord, j'ai vu beaucoup de personnes me dire « Purée, j'ai vraiment perdu du temps. J'ai perdu des années. J'ai étudié ça. Et en fait, j'aurais pu étudier quelque chose de plus intéressant. De... » Voilà, j'ai... Par exemple, quelqu'un qui a fait des études dans le Reiki ou dans l'ostéopathie ou dans la médecine chinoise et qui se rend compte, bah, en fait, je vais pas pratiquer ça parce que finalement, c'est essentiellement du bullshit. Bah, ça fait mal, quoi, parce que t'as consacré beaucoup de temps, d'énergie à ça. Donc, je le comprends tout à fait. Mais pour ma part, j'ai plutôt l'impression d'avoir expérimenté, d'avoir appris des choses. Et puis, ben... C'est pas grave, la vie continue.
Ouais, et puis tu peux leur dire à ces personnes-là que, tu vois, Elisabeth Fetty, elle est restée 15 ans hein, dans la spiritualité New Age. Et au final, elle a fait... maintenant, elle a créé quand même un podcast qui aide beaucoup de personnes. Quoi.
Ouais, c'est ça, le fait de créer quelque chose à partir de ce qu'on a vécu, ça aide quand même pas mal en termes de résilience. Pour en faire quelque chose d'utile, au moins pour les autres, ouais.
On avait une dernière question. C'est, au final, quel conseil tu pourrais donner justement à des personnes qui seraient, toi, vulnérables et qui seraient exposées à ce genre de discours pour ne pas tomber dans ces pratiques New Age, sachant que, bah, comme on l'a dit tout au long de l'épisode, que... Bah, ces discours finalement se retrouvent énormément dans les librairies. Il y a énormément de vidéos sur YouTube, sur TikTok certainement aussi. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là pour qu'ils évitent de tomber dans ces pratiques New Age?
Alors, déjà, j'irais de pas prendre son expérience personnelle pour preuve. Faut différencier son vécu de l'explication qu'on lui donne, par exemple. Ok, j'ai ressenti quelque chose, j'ai ressenti une présence, j'ai ressenti des picotements dans ma jambe pendant un soin énergétique, je sais pas. Ça, c'est mon vécu. Par contre, comment je l'interprète, quelles conclusions j'en tire, c'est autre chose. C'est pas parce que j'ai ressenti des picotements pendant que quelqu'un agitait ses mains au-dessus de moi que cette personne a, qu'il existe des énergies et que cette personne a eu un impact sur ces énergies et que en bougeant mes énergies, et ben en fait, ça a aussi eu un impact sur mon corps, ouais. Et ma santé. Enfin voilà, ça fait quand même beaucoup d'hypothèses à partir de j'ai ressenti un picotement dans mes jambes. Mmh. Donc voilà, faut vraiment différencier son vécu de l'interprétation. Après, faut aussi se renseigner sur les biais cognitifs, comment ça marche, pour moins se faire tromper, ou du moins avec moins de facilité, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Mais je crois que c'est Thierry Ripoll qui explique dans un super bouquin qui s'appelle Psychologie des croyances, pourquoi croit-on ? Voilà, pourquoi croit-on ? Psychologie des croyances, vraiment un bouquin que je recommande à tout le monde en permanence, parce que ça permet vraiment de comprendre les mécanismes derrière les croyances. Pourquoi est-ce qu'on croit ? Ça porte bien son nom. Et donc en fait, dans ce livre, il dit... il dit que les personnes qui ont le moins de chances de se faire piéger dans ce genre de croyances absurdes, on va dire, c'est les étudiants en psychologie. Pourquoi ? Parce qu'on étudie les biais cognitifs, les techniques de manipulation, qu'est-ce que c'est l'emprise, des choses comme ça. Donc ça veut dire que il y a même des grands scientifiques, des grands physiciens, par exemple. Qui se font avoir par... qui se font avoir. Avoir des croyances, c'est pas forcément se faire avoir. On est bien d'accord, mais... en tout cas qui peuvent avoir des croyances spirituelles et ou tomber dans des dérives, alors qu'on se dirait, bah, quand même, c'est quelqu'un de brillant, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Par contre, ça a à voir avec notre conscience des biais cognitifs, des biais de raisonnement. Voilà. Donc, il faut vraiment se renseigner sur ça. Ça peut toujours servir pour reconnaître les red flags, que ce soit d'ailleurs dans le cadre de la spiritualité ou dans les relations en général. C'est toujours
oui, bon. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est de garder une forme d'esprit critique dans tous les cas. Ouais. Et puis,
S'intéresser à l'esprit critique, voilà, de manière générale. Et puis aussi, un dernier truc, c'est ne pas confondre croyance et connaissance. Mmh. On a le droit d'avoir les deux, mais à mon sens, c'est plus sain de savoir ce qui relève de mes croyances personnelles ou d'un consensus scientifique qui s'appuie sur la recherche avec une méthodologie permettant de limiter au maximum ces fameux biais de raisonnement, d'attribution, etc.
Ben moi, ça me va très bien, cette fin. Donc, ben merci Julie pour ton temps et pour avoir pris justement le temps d'avoir expliqué ton histoire et d'avoir donné tous ces conseils.
Ben avec grand plaisir.
Et voilà, c'est tout pour cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous sur notre site internet, rubrique blog, pour découvrir la chaîne YouTube de Julie Rideau et en savoir plus sur son histoire. Pour nous contacter afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que vous trouverez dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de Tract ou de Since Nothing en tapant since.nothing dans la barre de recherche d'Instagram. Un grand merci d'avance pour nous avoir écoutés et à bientôt.